Aujourd'hui, mercredi 23 juin 2010, c'est la Saint Bigeard. Saint Marcel Bigeard est le saint patron le plus décoré de l'armée française. Le saint patron des tortionnaires qui ont fait de la France coloniale ce qu'elle est devenue. Un modèle pour les généraux des dictatures argentines, un exemple pour les escadrons de la mort brésiliens, un guide pour les putschistes chiliens, une lumière pour les agresseurs anglais des Malouines et pour les troupes génocidaires du Rwanda. Saint Bigeard, c'est le saint patron grâce à qui Abu Ghraib et Guantanamo existent. Non, je ne regrette rien, nous avons fait face à une situation impossible. Parole de spécialiste de la torture et de la disparition. Saint Bigeard, sans en être la véritable tête pensante, est à l'origine du savoir-faire français en matière de renseignement arraché à coups de gégène, du tuyau d'eau introduit dans la bouche ou de la technique du chevalet qui voit les terroristes interrogés suspendus par les poignets. Parce qu'on avait déjà perdu l'Indochine à cause de ces putains d'anamis de Viet Cong et des lois inadaptées au terrorisme rouge, parce qu'il fallait mettre en place des techniques d'interrogatoire sans sadisme mais efficaces, Saint Bigeard a créé le centre d'entraînement à la guerre antisubversive, destiné à faire d'un simple capitaine un athlète, un chef de guerre révolutionnaire, un para à toute épreuve, un véritable meneur d'hommes viril mais correct, pas du genre à qui on dirait « va te faire enculer, sale fils de pute ». C'est pas avec un type comme Saint Bigeard qu'on verrait une grève des joueurs. Lui, il avait des couilles. De Fellouze. Dans un bocal, souvenir d'Algérie. Et en matière d'action psychologique, il savait y faire. Au stade de Bloemfontein en Afrique du Sud, il aurait commencé par faire un quadrillage serré du terrain, divisé en 5 zones, elles-mêmes divisées en sous-zones, chacune étant contrôlée par un capitaine de la 10e division parachutiste chargé de pacifier les Bafana Bafana. En guise d'attaquant, chargé de la collecte du renseignement, Saint-Bigeard aurait envoyé Massu et Osares, la fine équipe de spécialistes de la question, même si ces tarlouses ont fini par se repentir en faisant dans leur froc avant de mourir, pour Massu, ou par reconnaître leurs crimes comme des fiottes, pour Osares, contrairement à Saint-Bigeard, qui a toujours refusé la repentance sur ses crimes commis avant, pendant et après la guerre d'Algérie. C'est grâce à une pratique assidue et appliquée de la théorie de la guerre contre-révolutionnaire antisubversive et de l'action psychologique qui a permis à l'Argentine de gagner la Coupe du Monde en 1978 dans un stade qui a beaucoup servi, mais pas qu'au foot, que Saint-Bigeard a été canonisé, lui qui haïssait tant les socialistes, ces mous du cul qui nous ont fait perdre nos colonies, tout comme Domenech aujourd'hui nous fait perdre pour la deuxième fois l'Algérie. Aujourd'hui, mercredi 23 juin, le soleil s'est levé. C'était un wagon de pines qui revenait d'Indochine. Il y en avait des longues, des fines, qui pendaient par la portière. Il va se coucher ce soir. Une bonne dame de charité en prit 3 douzaines de paires, les posa sur la cheminée pour se les carrer dans le derrière. Tiens, là la coloniale. Tiens, voilà les coloniaux. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur le www.campuslille.com.
Le matin, Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache.
Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté,
mais le chien s'est mis à aboyer.
Alors on a laissé l'autre moitié.
Il ne fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes ou réparait l'escabeau ou débouchait le lavabo.
Mais il ne savait même pas jouer du piano.
Certains soirs d'été,
le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles.
Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel.
Et de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant.
L'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine.
Et puis la guerre de Cent Ans quand il n'était que lieutenant.
Les croisades Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef.
Et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal.
Les Thermopyles Léonidas quand il n'était que deuxième classe.
Et Ramsès de la première guerre quand sa mère était cantinière.
Et le général, jusqu'au petit matin,
déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte.
Comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone.
Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait deux jumeaux à la bonne.
Et puis voilà que par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre.
Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal. Alors il nous quittait, c'était fatal.
Je l'ai reconduit en carriole jusqu'à la ville.
On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajons. Et sans émotion inutile, sans pleurer, sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros.
À la maison, la vie a pris sans aventure.
Y a plus personne pour nous chiper des confitures.
Le général au bistrot avait planté un drapeau.
Pour la patrie, j'ai payé la facture.
Je ne suis plus jamais retourné au marché, mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été,
on voit briller 5 étoiles, et ça nous fait un peu mal. On a jeté jamais un général.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. Comme nous le faisons régulièrement dans cette émission, quasiment tous les mois, nous invitons notre camarade Saïd Bouamama. Saïd, bonsoir.
Bonsoir.
Pour nous faire un petit bulletin météo de la crise, hein, la crise qui n'en finit pas de se terminer, la croissance qui n'en finit pas de revenir. Mais Saïd, je suis désolé, tu l'as bien vu l'actualité, hein, c'est le football, donc on est obligé de dire quelques mots. Il se passe des choses, à la limite même pour un sociologue, je rappelle que c'est ta formation, hein, des choses qui sont intéressantes.
En dehors du terrain.
En dehors du terrain. Donc... cette Coupe du Monde, nous, on l'a vu arriver de loin. On s'est dit, ça y est, ça va être la grande entreprise de diversion. Ça va permettre de parler, de faire remonter un petit peu le chauvinisme, etc. D'abord, peut-être un mot sur cet outil, finalement, qu'est le sport, notamment ce sport populaire qu'est le football, dans la conduite du capitalisme. Certains, ici, avaient dit un jour, certains au singulier, le football, c'est le stade suprême du capitalisme.
Oui, alors je n'irai pas jusque-là. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'effectivement, l'investissement du sport comme mode de, de diversion et comme mode de consolation des dominés, et donc des fausses joies et des fausses revanches, ont toujours fait partie de l'arsenal idéologique du capitalisme pour, par moment, faire passer des mesures, faire oublier la situation, etc. Et là, tout avait bien commencé pour le gouvernement. Alors qu'il avait besoin, pour les intérêts de la classe dominante, de faire une des plus grandes attaques depuis 1945, sur les retraites, mais aussi, on en parlera après, sur la soi-disant remise en, à jour des déficits publics, etc. Eh bien, il y avait cette Coupe du Monde qui venait prendre le relais et qui venait compléter le débat sur la burqa. Ça fait quand même deux belles diversions qui étaient en jeu. Et puis, patatrac, les choses s'écroulent. La défaite de l'équipe de France... ne permet pas au mondial de faire cette diversion.
Parce qu'une défaite en plus.
Parce qu'une défaite ou une déroutée. Mais ce qui est surtout intéressant dans le débat actuel, ça n'est pas tant les résultats que le comportement de l'équipe de France, que le discours qui apparaît à propos de ça.
Bah oui, c'est ça, parce que là, on a eu. Alors effectivement, c'est un sport extrêmement populaire pour de bonnes raisons, parce que c'est un sport collectif. Et c'est un sport qui est à la portée de tout le monde dans les quartiers, etc. On y joue, donc effectivement, il y a un investissement et une recherche de consolation à travers ça. Et puis, on a senti que c'est juste une défaite sportive, je veux dire, ça arrive partout. Sauf que là, il s'est passé autre chose. C'est-à-dire que cette déroute qui est due apparemment à des phénomènes à l'intérieur où il faudrait voir un petit peu l'argent, le rôle que ça joue dans tout ça, hein, ça a fait que dès la fin du deuxième match, quoi, enfin, dès que le bordel a été annoncé, il y a eu systématiquement interprétation politique de ce qui se passait, et j'ai envie de dire des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire que pour tout le monde, pour le monsieur tout le monde, comme pour la ministre, etc., il y a interprétation politique des choses, de ce qui se passe. Alors j'ai envie de dire, je crois que c'est Marx qui disait la France c'est le pays politique par excellence, tout ce qui s'y passe, ça se passe on va au bout, quoi, on va au bout des choses.
Ce qui est certain, si on veut donner une analyse sociologique de ce qui s'est passé, c'est que les réactions aux résultats de l'équipe de France souligner le clivage qu'a construit la classe dominante aujourd'hui, avec d'un côté une paupérisation massive et de l'autre côté un enrichissement massif. C'est ce clivage-là qui était essentiel. D'ailleurs, les discours qui sont tenus sur l'équipe de France aujourd'hui, que ça soit du côté de la ministre, qui quand même vient nous dire que c'est du fait de quelques caïds au sein de l'équipe de France, ou que ça soit du côté de notre irremplaçable Alain Finkielkraut, qui
c'est
de
le même nouveau, côté, c'est le même côté,
hein. Voilà, qui nous voit une division, mais avec la casquette de penseur philosophe, une division ethnique et religieuse, on tente de masquer le clivage qui est lié à l'argent. Si on veut parler de l'équipe de France et de son rapport à l'argent, on peut en parler. Si on veut parler du football et du rapport à l'argent du football, on peut en parler. Mais s'il y a clivage, il est bien un clivage en termes d'argent et non pas un clivage en termes de division ethnique et religieuse. Mais ce qui est surtout intéressant de regarder, c'est que on a la confirmation que l'angle d'attaque pour faire passer toutes les mesures réactionnaires de la part de la classe dominante, ça va être de nous amener à ne plus penser en termes de classe sociale, de ne plus penser en termes d'économie, de ne plus penser en termes d'intérêt, mais de nous faire penser en termes de clivage ethnique et religieux. Le discours de Finkielkraut, l'analyse elle est très claire, son texte est très clair, c'est de dire ne nous parlez pas d'une compréhension en termes de système, ne nous parlez pas non plus de résultats sportifs, c'est plus que cela, c'est l'existence de la caïra,
hein, ouais, reprend l'engagement
de banlieue, le sens de la racaille au sein de l'équipe de France. En gros, les Noirs et les Arabes que le football a sorti du ruisseau, eh bien, n'aiment pas la France et ont décidé consciemment d'aller à l'échec. On est là vraiment sur des explications qui indiquent bien que leur grande hantise, c'est que tous les dominés de ce pays, qu'ils soient Noirs, Arabes ou Blancs, s'unissent par rapport aux politiques gouvernementales et que tout est l'occasion pour remettre un clivage en termes de couleur, de religion ou d'origine.
Oui, parce que finalement, si on parle encore une fois à monsieur tout le monde, ce qu'il va éventuellement reprocher, ça reste des conversations de comptoir, j'ai envie de dire, mais c'est quand même de dire, bah, ces mecs-là, ils sont trop payés, quoi. Absolument. C'est des questions de pognon, c'est pas des questions de couleur. Enfin, moi, sur ce que j'entends pas des gens qui me disent, ouais, c'est parce que c'est des Noirs qu'on a perdu. C'est parce que les mecs, ils sont trop payés. Et justement, peut-être que ce qui trouble un petit peu la compréhension, puisque cette métaphore entre, parce que tout le monde l'a fait, la métaphore entre l'équipe de France et la France pays, la métaphore entre Raymond Domenech et Sarkozy. Nous, ça fait des mois qu'on le dit ici, hein. Domenech, c'est le Sarkozy. Qui prend les coups, quoi. tout ça, elle s'arrête assez vite, cette métaphore, parce que finalement, ces joueurs, c'est des gens qui sont effectivement, comme tu le dis, sortis du ruisseau, mais qui sont des multimillionnaires.
Absolument.
Et c'est ce qui pose question, et ça pose question, y compris sur la question de la promotion sociale dans le système capitaliste, en France en particulier.
Absolument. Vous savez, sur la question de la promotion sociale, il y a deux manières de la penser. La première, c'est de considérer que c'est une promotion sociale collective, c'est-à-dire qu'on arrache des droits qui permettent à tout le monde de s'élever par rapport au niveau de vie, par rapport au pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est une première manière de penser la promotion sociale. Ça a toujours été celle du mouvement ouvrier. C'est en arrachant des droits collectifs, universels, qui s'adressent à tous, que la promotion sociale a un sens. Et l'autre manière, c'est ce que j'appelle dans mes travaux le tokenisme. Excusez-moi sur ce mot barbare. Tokenisme, ça vient de token, le jeton. C'est-à-dire qu'on va, c'est une manière de sauvegarder le système en l'ouvrant à la marge. On va l'ouvrir à 0,1% des populations dominées. Donc on va avoir un fils d'ouvrier qui devient PDG, on va avoir un noir qui devient footballeur, on va avoir une arabe qui va être ministre.
Ce qu'on appelle la diversité.
Absolument, c'est ce qu'ils appellent la diversité. C'est pour ça qu'ils aiment bien le terme diversité. Et en ayant cela, eh bien, ils préservent justement l'exploitation de la grande masse, etc. Et bien, ce tokenisme, il marche dans le football comme il marche au niveau économique, comme il marche au niveau politique. C'est promouvoir quelques élites pour pouvoir justifier la régression de notre pouvoir d'achat, de nos conditions de vie, etc. Et je pense que c'est la grande distinction entre la position que j'estime progressiste de la promotion sociale, qui sont des droits pour tous, et la définition bourgeoise de la promotion sociale, qui est « sort ton jeu de l'épingle tout seul », comme on sait qu'il y en a peu qui s'en sortent. Pour s'en sortir, il va falloir cracher sur les autres.
D'ailleurs, la bourgeoisie ici, en l'occurrence, toujours, hein, pour terminer avec cette histoire de football, la bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle fait? Ces gens-là, elle les présente comme des héros, parce que ça ramène du pognon, hein, et y compris, il y a des campagnes publicitaires, Quick, Crédit Agricole, enfin voilà, tous ces gens-là, ils mettent leur étiquette sur ces prolétaires qui sont emmilliardisés d'une certaine façon, hein, et on voit très bien la réaction aujourd'hui, hein, c'est que lorsque ça va mal, quoi, en quelque sorte, on les rejette. Hein, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Crédit Agricole, il veut plus, il arrête sa campagne de pub, Quick, il met plus Adelka, etc., etc. Et on voit une bonne bourgeoisie, bien blanche, bien polie, bien élevée, qui d'un coup dit non, non, ces gens-là ne sont pas de notre monde finalement.
Absolument. En réalité, cette minorité qui est en ascension sociale dans le capitalisme et qu'on met en avant pour justifier le système, elle a en plus à gagner sa place. En crachant sur son milieu d'origine, en étant plus royaliste que le roi, et à chaque fois qu'elle échoue, en chantant la Marseillaise, donc, et à chaque fois qu'elle échoue, eh bien, bien entendu, eh bien, on va dire que ça vient d'elle et non pas du système. Et donc là, on est vraiment sur une manière de légitimer le système capitaliste et non pas sur une promotion sociale. Tu parlais du terme diversité, ben justement, le terme diversité, il a été inventé pour qu'on ne parle plus d'égalité. Mmh. J'ai l'habitude de prendre une image, moi, pour bien comparer les deux. Pour moi, la diversité, c'est la photo de famille. Donc, on va prendre une photo avec tous les membres d'une entreprise, par exemple, et on va dire, regardez, celui-là, il est fils d'ouvrier, celui-là, il est noir, celui-là, il est arabe, celui-là, il est handicapé. Regardez, on a la diversité dans l'entreprise. Ça, c'est la diversité. L'égalité, c'est pas ça. C'est de regarder l'organigramme. L'enfant d'ouvrier, les enfants d'ouvriers, ils sont à quel niveau de l'entreprise? Les enfants de maghrébins, ils sont à quel endroit de l'entreprise? Les femmes, elles sont à quel endroit de l'entreprise? Et là, tout de suite, on s'aperçoit que, oui, on peut avoir une diversité qui masque une inégalité. Et effectivement, Sarkozy pourrait dire, regardez, j'ai des arabes et des noirs dans mon gouvernement. C'est la preuve qu'on avance vers l'égalité. Non, tu as des arabes et des noirs, mais qui masquent que dans le reste de la société, l'organigramme, et c'est valable pour les classes sociales, hein, les enfants d'ouvriers, eh bien, l'inégalité n'a jamais été aussi profonde qu'aujourd'hui.
Donc, ce sont les Arabes qui cachent la forêt, alors.
Ce sont les Arabes qui cachent la forêt,
elle est belle, celle-là. Dans quelle mesure ça marche, ça? Là, je parle encore aux sociologues, mais en plus, issu lui-même de l'immigration, à la fois des quartiers populaires. Dans quelle mesure ça marche auprès des jeunes aujourd'hui? Parce que, je veux dire, ce qui est pointé du doigt aussi, c'est le jeune avec sa casquette à l'envers, hein, de la Nadine Morano. C'est effectivement des comportements peu civiques et, pour nous, progressistes, qui n'avancent à rien. Et à la limite, les joueurs de l'équipe de France, ils symbolisent aussi ça. Donc, dans quelle mesure ça marche, ce modèle?
Alors d'abord, si on regarde... Si on regarde historiquement, ce modèle, il fonctionne lorsqu'il n'y a pas d'offensive collective. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vase communicant. C'est quand il n'y a pas d'espoir social collectif que ce type de comportement et l'espoir dans ce type de promotion existent. À chaque fois qu'il y a eu des mouvements collectifs, on a vu diminuer ce modèle de la promotion sociale individuelle. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'entre-deux. C'est que d'un côté, il y a une colère énorme au sein des milieux populaires. Et donc, ça crée une tendance à diminuer ce type de comportement. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'offensive encore concrète. Et donc, effectivement, ce type de croyance existe encore. Il suffirait que demain, il y ait un mouvement social massif pour que les jeunes des quartiers populaires qui peuvent encore espérer s'en sortir individuellement au détriment des autres basculent vers le mouvement collectif. Et donc la vraie question, elle n'est pas de critiquer ces comportements-là, elle est de construire une offensive collective, parce que c'est ça qui est la véritable réponse à ces comportements individualistes.
Alors, la météo de la crise, c'est la météo des classes sociales aussi, hein, ça traverse tout le discours. C'est intéressant d'ailleurs, hein, tout le discours qu'on vient d'avoir sur autour de ce prétexte qui est la faillite C'est un mot aussi qui convient, la faillite de l'équipe de France. Je crois qu'il est vraiment ressenti hein, par toute la population et qui fait directement, donc, je le rappelle, une métaphore avec le pays réel, comme disait l'autre, et avec le gouvernement en particulier, hein, le bling-bling, machin, etc. Donc les classes sociales, c'est une réalité, bien évidemment, et un petit peu de météo des classes sociales, comment elles se portent dans la période qu'on vit actuellement. Alors peut-être ce qu'on appelle la bourgeoisie, donc, hein, donc ceux qui se portent bien en temps normal, est-ce qu'en ce moment avec la crise ça, ils font des efforts peut-être?
J'entendais tout à l'heure des discussions sous forme humoristique ici avant d'entrer dans le studio sur
ça arrive, c'est vrai, hein,
sur bon, on va pas regretter Chirac. Dans le passé, la classe dominante a été une classe qui nous exploitait. Ce qu'il y a de nouveau par contre, et ce qu'exprime cet humour sur on va finir par regretter Chirac, c'est qu'on a désormais une classe dominante arrogante. C'est-à-dire une classe dominante, voilà, qui est vraiment aujourd'hui sur l'idée de reconquérir tout ce qu'elle a été obligée de concéder par les luttes de générations de travailleurs. Et cette arrogance-là, eh bien, elle est effectivement une nouveauté. Alors, on le voit en particulier dans la multiplication des scandales, dans la multiplication des choses inadmissibles, etc. Et donc, pour n'en citer que trois, mais je suis sûr que les auditeurs pourraient nous appeler et nous dire, mais vous, t'as oublié ça. Je voudrais citer les trois qui concernent cette semaine, dont on parle beaucoup cette semaine. D'abord, le procès de Jean-Marie Messier, qui est quand même un symbole du capitalisme bling-bling, celui qui a réussi, qui a percé d'un seul coup, etc., qui était idolâtré par le monde de l'argent, qui a bâti un empire sur la base du mensonge, puisque c'est en trafiquant les résultats de son entreprise qu'il a pu faire monter ses actions. Bref, on a là un PDG qui avoue avoir triché, qui a fait des infractions boursières, qui est accusé de diffusion de fausses informations, de manipulation des cours et d'abus de biens sociaux, et qui trouve des défenseurs. Alors, en renvoyant, bien entendu, au fait qu'il n'était pas tout seul, etc., comme si le fait que ça soit le système qui est responsable dédouane les individus qui incarnent ce système. Ça, c'est une première dimension qui est extrêmement intéressante. Il faudrait regarder le degré d'indulgence lorsque c'est un jeune de quartier populaire qui fait une bêtise, et lorsque c'est un Jean-Marie Messier qui fait ce qu'il a fait.
Il faut dire sur Jean-Marie Messier qu'aucune peine n'a été requise contre lui, quoi, aujourd'hui.
Voilà. Oui, mais c'est bien ce que j'appelle de l'arrogance, c'est-à-dire qu'on peut faire, on fait ce qu'on veut sans qu'il y ait danger. La seconde affaire, ben, elle est à la tête de tous les médias, mais elle est vraiment caricaturale, ce qui montre bien dans quelle époque on a, et ce qui montre bien, et là je m'adresse à nos auditeurs, hein, il faut botter le cul à cette classe dominante, parce que sinon, même si le rapport de force ne permet pas de gagner, au moins ça la calmera, et je pense qu'on a besoin qu'au moins elle se calme, si ce n'est, si on est suffisamment nombreux, eh bien on pourra lui botter le cul de manière très forte. Quand même, la principale fortune de France, qui avoue avoir fait des évasions fiscales, elle avoue 85 millions...
Mais en cours, hein, c'est ça.
Oui, mais en cours. 85 millions d'euros en Suisse qui n'ont pas été déclarés, c'est ce qu'elle avoue. Autant dire qu'il faudrait regarder de plus près sur ce que ces 85 millions.
Sur une fortune personnelle estimée à 15 milliards à peu près. Mmh. Quoi. Donc,
On est dans le vaudeville en plus, là, dans cette affaire Bettencourt. Hein.
Absolument.
Il
n'y
a pas que les vestiaires de l'équipe de France. C'est pour ça qu'on peut toujours faire la métaphore. Hein.
Absolument.
C'est qu'on est dans le vaudeville. Là,
absolument. Hein. Donc, on a cette dimension-là. Seconde dimension, on apprend que le gestionnaire de la fortune de Bettencourt a reçu la Légion d'honneur de la part de notre ministre du Travail qui nous prépare cette belle réforme sur les retraites. Et puis on apprend que la femme de ce même ministre qui a remis la Légion d'honneur au gestionnaire, eh bien, est salariée de ce gestionnaire qui a reçu la Légion d'honneur. On apprend enfin que lui-même se permet de dire qu'il va porter plainte et que sa femme, comme par hasard, démissionne aujourd'hui en disant non pas que ça n'est pas le résultat de l'affaire, c'est simplement pour elle, parce qu'elle ne voulait pas être en conflit d'intérêts. Bref, on a là vraiment des gens qui se foutent de notre gueule. Il faut remonter à très loin pour voir une arrogance. Hein, c'est-à-dire, en gros, on considère que les Français n'ont pas de cerveau et vont être en mesure de croire les bobards qu'on le...
Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire, tu sais que moi j'aime bien développer jusqu'à un aspect même carrément moral, est-ce qu'on peut pas dire que c'est de la vulgarité aussi? Est-ce que c'est pas... Moi ça me fait penser à ce qui se passe, la période qu'on vit, alors je l'ai lu il y a longtemps, mais au bouquin de Zola qui s'appelle La Curée, où on voit la bourgeoisie d'Empire, mais dans toute... au moment où elle est assise complètement et où se développe une soi-disant culture et des comportements, etc., qui sont des comportements comme ça, mais qui... Alors, tu vois, il y a un peu de dialectique dans tout ça, c'est que quand ils sont au sommet de leur puissance et de leur force, on voit d'autant plus leur faiblesse et peut-être des signes même des ferments de décadence quoi, hein, dans cette vulgarité non. assumée, etc.
Absolument. Vous savez, la bourgeoisie, comme française, comme les autres bourgeoisies,
elle est pas très classe.
A connu, ouais, elle est pas très classe. a connu et connaît toujours deux périodes. Une période dans laquelle elle croit que ce qu'elle fait va servir la société, va servir, y compris les autres classes sociales. Et jusque, allez, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, la bourgeoisie française était persuadée, et sincèrement, elle se trompait, on le savait, nous. Ouais. Mais elle croyait sincèrement que, en s'enrichissant, elle enrichissait tout le monde. Aujourd'hui, la bourgeoisie ne croit plus ça. Elle sait, de manière évidente, que en s'enrichissant, elle appauvrit les autres. Et donc, on n'est plus dans une classe sociale qui croit apporter. On est dans une classe sociale qui est dans la curée, comme tu l'as dit, et qui est effectivement comment je grossis au maximum. Et donc, tu as prononcé un terme qui, pour moi, est le bon concept, beaucoup plus que vulgarité. C'est le terme de décadence. Nous sommes dans une classe qui n'apporte plus rien à une société, qui le sait, et qui, par conséquent, est uniquement dans la jouissance immédiate et dans l'accumulation. Ça enlève toute règle morale. Et effectivement, nous avons une bourgeoisie qui n'a plus aucune règle morale, sachant que pour moi, la morale n'est pas quelque chose à déifier, etc. Mais en tout cas, ça donne des repères à un moment donné pour comprendre une classe sociale, que de savoir c'est quoi sa morale, c'est quoi ses interdits, c'est quoi ses tabous. Là, on a une bourgeoisie où c'est chacun pour soi, la curée, que tout le monde s'enrichit, et on tue le voisin. Et on est vraiment là dans la... Ça peut mener vraiment une société au plus bas fond. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères. On n'a plus une bourgeoisie qui est capable de se dire « Bon, je ne vais pas trop les appauvrir, sinon ils vont se révolter. » Non, c'est « Je vais les appauvrir tant que je peux. » Et donc, effectivement, c'est la décadence que nous vivons aujourd'hui.
Il y avait un troisième exemple ?
Oui, le troisième exemple qui est pour moi rigolo, parce qu'on voit bien que cette décadence, elle touche toutes les instances de l'État. C'est la présidente de la HALD, Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour l'Égalité.
Là, on est dans la morale.
Dans la morale, normalement. Et puis, on est dans quelque chose où il y a le mot « égalité », où il y a le mot « lutte contre les discriminations ». Et puis voilà que la nouvelle présidente de la HALD décide, alors de tête, je crois qu'elle fait passer son salaire, décision de mai dernier, dernier conseil de la HALD, elle fait passer son salaire de 6 000 euros à 14 000 euros. Par rapport, on va parler après...
C'est par mois, hein.
Oui, bien sûr, 6 000 euros à 14 000 euros. On va parler tout à l'heure de ce qu'ils nous préparent, de ce qu'ils nous ont déjà préparé, de ce qu'ils mettent en œuvre en termes de paupérisation. Là, on a vraiment l'impression d'une classe qui... n'a plus aucun repère, si ce n'est de « je m'en fous des autres ».
Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. On lève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage, ramasse ses affaires et file. Le v'là face à l'ouvrage, pas le temps de s'installer. Deux pièces à contrôler, à emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. C'est enclenché, à peine le plancher foulé. 8 heures à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel. Profession, OS, comme ils les appellent. Dans les boîtes d'intérim, ouvrier spécialisé. Ferme-la et trim, l'exploitation est officialisée. subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon une fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ces gosses gambader, se rappelle du week-end dernier, les conneries du JT. Mère descend vite fait sur terre, son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. A envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adeco. Maintenant c'est lui fait de presse, plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse, l'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. Coupé, séparé, jeté, c'est ça le boulot. Coupé, séparé, jeté toute sa vie. Il voit que la dernière moulée, on vient le remplacer. Quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé, grimpe les escaliers. Va pouvoir pisser, se laver les mains, fissa avant de pouvoir aller crailler. Dans le local, qui est tellement sale, quand en normal, ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME, ça parle PMU à côté de lui. En face, les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. 2-3 conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort. Avant de reprendre l'effort, il écrase son mégo, rentre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. Le v'là nouveau, trop de moules qui s'ouvrent et se referment chaque 30 secondes chrono. Pour éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour, ici c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
C'est toujours l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus.
Et toujours avec Saïd Bouamama pour faire un petit peu cette météo mensuelle de la crise. Tu parlais de grosse colère qui était, et je pense que tout le monde s'en rend compte, c'est ça. Et y compris bon, l'épisode de l'équipe de France, ça révèle aussi ça. Il y a une colère sourde, profonde dans ce pays, qui est un pays quand même qui en a connu. Et avec des débouchés souvent, avec des, hein, ça a débouché sur des mouvements. Aujourd'hui, on sent que cette colère, elle est là, elle est vraiment là. Il y a certes un problème de débouchés, mais elle est là. Il y a, je rappelle, demain une grosse manifestation qui s'annonce, effectivement, très grosse, c'est très grosse de cette colère. Je rappelle, le rendez-vous, c'est 14h30, porte de Paris. Et il faut signifier aussi que, comme les salariés de Transpol sont également très en colère, il y aura très peu de bus, très peu de trams et très peu de métro. Donc il va falloir s'arranger pour les gens qui n'habitent pas Lille pour venir d'une certaine façon. Donc cette grosse colère, elle a un ressort, elle a une réalité, elle a une cause première. Cette cause première, c'est ce qu'on vit au travail. Alors toujours, on s'intéresse aux sociologues, hein, à ce que peut dire le sociologue, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de souffrance au travail, que la lutte des classes, effectivement, elle se pratique et qu'elle se pratique de manière extrêmement violente. Est-ce que c'est pas là-dessus, je veux dire, est-ce que c'est pas la première chose à révéler, à soulever pour arriver à une mobilisation?
D'abord, soulignons que on n'a jamais connu une colère sociale de cette ampleur-là depuis de nombreuses décennies, y compris des catégories sociales qui n'étaient pas dans la colère dans le passé, c'est-à-dire qu'on a des bastions ouvriers ou conscientisés ou des syndicats forts, etc., qui exprimaient une colère sociale. Aujourd'hui, on a dans le monde des PME, dans le monde des toutes petites entreprises, dans le monde, y compris de la sous-traitance, on a des expressions de colère qui s'expriment. Et donc ça indique qu'il y a un effet d'élargissement de la colère à des catégories sociales qui n'étaient pas les catégories habituellement sur le front de la lutte des classes. Et ça, ça fait de nombreuses décennies qu'on n'a pas connu ça. La seconde chose qu'il faut souligner, c'est qu'une colère, ça peut s'exprimer de deux manières. Ça peut s'exprimer quand il y a un débouché politique. dans un projet commun de transformation de la société en obtenant des acquis sociaux, etc., comme ça peut se transformer en autodestruction, c'est-à-dire en implosion quand on garde pour soi, parce que c'est invivable et qu'on le garde pour soi. Et je crois que si on regarde aujourd'hui le rapport salarial, ce qui se passe dans les entreprises, entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise, il y a trois caractéristiques du rapport salarial aujourd'hui. D'abord, une exploitation plus forte en termes de part revenant au salaire en diminution par rapport à la part revenant aux actionnaires et aux profits.
Le taux d'exploitation.
Un taux d'exploitation plus important. La seconde chose, c'est qu'il y a une transformation dans les rapports sociaux au travail. C'est-à-dire que l'intensité aujourd'hui du travail fait que on va mettre les personnes en situation d'être évaluées sur ce qu'elles produisent ou ce qu'elles produisent pas, et donc elles vont intérioriser on va les pousser à les intérioriser l'échec ou la réussite du plan de travail. Et puis la troisième dimension, on a parlé de décadence de la classe en général. Après, ça se joue aussi dans chacune des entreprises par des actes d'humiliation, par des actes le discours sur les gagnants et sur les perdants, par des actes de mise au placard, par des actes de pousser les personnes à la dépression ou au licenciement.
Ça, c'est très fréquent. On en a plein autour de nous et c'est ce qui différencie quand même. On a de la chance. On est sur Radio Campus. Les autres médias, on a affaire, y compris s'ils sont sincères ou honnêtes, à des journalistes qui sont pas dans ce monde-là. Et donc on a c'est complètement pas, il y a pas de discours sur cette réalité-là. Pourtant, c'est la réalité que vit toute la population, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être ça aussi qui crée le problème, c'est que pour toute la population, il y a ce vécu, il y a ce réel, etc. Et puis en face, il y a le discours commun, etc., qui ne renvoie pas du tout cette réalité. Ça aide pas non plus.
Absolument. C'est-à-dire qu'en plus de l'exploitation, il y a aujourd'hui l'humiliation. Vous savez, il y a un terme que les jeunes des quartiers populaires utilisent, ils l'ont emprunté de l'arabe, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Ils parlent de hugra, c'est-à-dire de l'articulation de l'exploitation et de l'humiliation. Eh bien, aujourd'hui, le mode salarial, le rapport salarial, j'ai toujours dit, moi, que les milieux populaires inventaient les bons concepts. Après, il faut le traduire en français, mais trouver toujours dans leur vocabulaire les concepts adéquats. Aujourd'hui, le rapport salarial n'est plus seulement un rapport salarial d'exploitation, il est un rapport salarial d'exploitation sur lequel on branche l'humiliation comme mode de gestion de la force de travail. Et je crois qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que c'est extrêmement répandu et bien entendu, les médias n'en parlent pas. Il y a un excellent ouvrage que je peux conseiller à l'ensemble des auditeurs. Le titre se retient facilement, donc vous le trouverez facilement. C'est un ouvrage de Jean-François Dejour. Retenez le titre et vous tapez sur Internet. Ça s'appelle Souffrance en France, où il s'intéresse aux nouvelles formes de management qui sont basées sur l'humiliation et sur la division du collectif de travail. En réalité, le rapport salarial, on est passé d'un rapport à un collectif de travail à... On a coupé les salariés les uns à côté des autres, on a multiplié les statuts, on a mis des formes de management dans lesquelles chacun doit rendre des comptes tout seul et non pas le collectif. Résultat, chacun est responsable de sa propre, entre guillemets, réussite ou de son propre, entre guillemets, échec. Et ça, eh bien, en plus, on y rajoute des mots sur tu es incapable, tu es pas à la hauteur, tu es dépassé, tu es ringard. Et ce type de phrases, et c'est des types de phrases qui détruisent dans la culture ouvrière, parce que la culture ouvrière est une culture dans laquelle le travail est pas seulement une manière de gagner un salaire, le travail...
C'est de la création.
Voilà, c'est de la création et ça renvoie à une utilité sociale. En fait, la philosophie de la classe ouvrière, c'est ne mange pas celui qui travaille pas, quand il y a du travail, bien sûr. Hein. Or, c'est cette dimension d'utilité sociale, je ne dois pas être, quelqu'un qui est un parasite pour la cité. Ça, c'est profondément ancré dans la classe ouvrière et la bourgeoisie l'utilise aujourd'hui pour humilier ceux qui sont rétifs. Ceux qui n'arrivent pas parce qu'on leur a imposé des conditions de travail qui sont insupportables, eh bien, pour les humilier. Je pense que, outre la question salariale, qu'il faut continuer à défendre, parce que c'est la principale, outre cela, la question de la dignité au travail est une question dont les syndicats doivent s'emparer. Alors comment ? Ben, il faudra qu'on réfléchisse, etc. Mais la question de la dignité au travail, elle doit être posée aujourd'hui. Et le mot dignité n'est pas seulement quelque chose qui est en dehors de l'entreprise, ça se joue aussi dans l'entreprise. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on traite des êtres humains uniquement sous la forme de ringard, par ringard, vainqueur, etc. Il faut absolument renvoyer à une régulation par le droit. Et ça, aujourd'hui, nous sommes dans une période où la bourgeoisie tente de déréguler le droit du travail.
Dans la météo des classes sociales, tu nous as tout à l'heure fait un portrait rapide de la bourgeoisie en France aujourd'hui, décadente, jouisseuse, etc. Et de l'autre côté, et qui dans le même temps, pour profiter de tout ça, là on est dans le mépris, dans l'humiliation de la classe ouvrière. Tu vois, j'ai toujours un petit peu de morale quand même dans la lutte des classes, moi j'aime bien. Alors il y a un discours derrière, hein, pour aussi justifier toutes ces attaques. Là on est tous ensemble, c'est comme l'équipe de France, on est tous ensemble, hein, et tous ensemble on est en déficit. Et tous ensemble, donc on doit faire des efforts. T'as voulu nous parler un petit peu de cette question de déficit.
Oui, là aussi, sur la question du déficit, ce qui est quand même assez extraordinaire, rappelez-vous, c'était dans une fois où j'étais avec vous, dans une émission précédente, où on discutait de la fin de la crise, puisque la bourgeoisie disait le bout du tunnel est arrivé.
Dans 18 mois.
C'était dans 18 mois, mais ça fait déjà un paquet de mois.
Hein, là, c'est encore 18 mois.
Et on est obligé de constater quand même que quand on regarde les mesures qu'ils nous proposent, c'est toujours argumenté sur la crise. Je voudrais juste sur la question du déficit quand même montrer, parce que je pense que on nous annonce des chiffres et peut-être que certains auditeurs ne se rendent pas compte de ce que ça peut signifier au niveau concret. On a quand même eu une annonce dans 3 pays, en une semaine, l'Allemagne, l'Angleterre et la France, d'un chiffre à peu près équivalent, entre 90 et 100 milliards d'euros d'économies à faire sur 3 ans. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte de ce que ça veut dire 100 milliards d'euros sur 3 ans. Il faut remonter à la période de guerre pour retrouver des remises en cause aussi importantes. Ils nous disent qu'ils vont donc en 3 ans revenir à 3% du produit intérieur brut en termes de dette, donc pour 2013, donc ils sont vraiment pressés. Et ça veut dire quoi? Eh bien, pour l'instant, en France, on nous dit qu'il n'y a pas de rigueur. Je ne sais pas ce qu'il faudra appeler rigueur, si 100 milliards d'euros de bénéfices en 3 ans, ce n'est pas de la rigueur, mais enfin, il paraît qu'il ne faut pas parler de rigueur. Alors il faut aller regarder ceux qui ont proposé 100 milliards, ce que ça voulait dire. Puisque les Allemands, eux, ont donné des mesures. Et les Anglais ont donné des mesures. Peut-être qu'ils n'ont pas une élection aussi court terme et que ça leur permet de dire les choses de manière plus franche. Mais en tout cas...
En Angleterre, carrément, ils ont proposé une espèce d'enquête auprès de la population pour savoir où ils voulaient serrer la ceinture, en gros. Hein, ce qu'ils voulaient...
Simplement, dans le plan anglais, c'est les deux mesures phares les plus intéressantes, enfin les plus parlantes, pardon, pas les plus intéressantes, c'est d'un côté la hausse de la TVA, donc le consommateur va payer, et de l'autre côté, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ceux qui pensent que nous sommes tous dans une même équipe, ben voilà deux mesures qui sont exactement... Hein, la TVA, c'est l'impôt que paye le peuple, puisque vous ayez 14 milliards d'euros de salaire ou un malheureux 500 euros, quand vous achetez votre baguette, c'est la même TVA. La hausse de la TVA, c'est les milieux populaires qui vont payer. Et donc, on a d'un côté une hausse de TVA et de l'autre côté la baisse de l'impôt sur la société pour relancer l'investissement, bien sûr.
Hein, évidemment,
c'est bien sûr pour ça. Secondo, on a dans plusieurs pays européens l'annonce, et c'est, aujourd'hui, à mon avis, c'est bien l'approche de l'élection de 2012 qui les empêche de le dire tel quel, mais... l'annonce que du gel des salaires des fonctionnaires. On ne peut pas faire 100 milliards d'euros en 3 ans sans geler ou diminuer. Je vous rappelle qu'il y a certains pays qui ont diminué, quand c'était une diminution des salaires, sans diminuer les salaires des fonctionnaires. C'est troisièmement la baisse de toutes les autres dépenses publiques. Concrètement, ça veut dire que dans les quartiers populaires, le petit filet qui était ces petites associations qui fonctionnaient avec une petite subvention, etc., tout ça, eh bien, ça va exploser. Et en face de ça, on nous dit quand même les autres vont payer. Je vous rappelle que pour la réforme des retraites, on y viendra peut-être après, c'est 1% du plan de financement qui est demandé aux actionnaires, c'est-à-dire rien du tout. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une période dans laquelle toutes les mesures vont, quand ça concerne les bénéfices, les profits et les actionnaires, dans le sens d'une diminution des charges, et quand ça concerne les salariés, sous toutes les formes, que ça soit l'impôt indirect, que ça soit le gel des salaires, que ça soit la baisse des dépenses publiques, que ça soit la baisse du nombre de fonctionnaires, etc., c'est la remise en cause du salaire direct ou indirect des salariés aujourd'hui.
Mais ça suffira pas pour résorber leur crise?
Mais bien entendu, non seulement ça suffira pas, mais l'intérêt de la question de la bourgeoisie, c'est pas de résoudre la crise. Son problème, c'est comment, dans la crise, je continue à faire des profits. La bourgeoisie n'a jamais été la crise. Elle se porte très bien en situation de crise quand ses profits vont bien. Ce qui l'embête, c'est quand la crise peut signifier une baisse de ses profits. Et donc là, la question qui est posée, c'est quand il y a une crise, c'est qui va la payer? Et c'est le rapport de force qui le détermine. Actuellement, avec les mesures qu'ils nous préparent, c'est clair, c'est par une paupérisation que la crise va être payée, donc par un enrichissement de la classe dominante. Si nous bougeons, si nous sommes suffisamment capables de transformer le rapport de force, eh bien oui, la bourgeoisie peut payer une partie de la crise, et si nous sommes capables de la foutre en l'air, ce que j'espère un jour, eh bien elle la payera entièrement.
Charles, c'est ça. Mais elle voit aussi la bourgeoisie, elle voit aussi cette colère, etc., qui est en train de monter, elle doit trouver des solutions peut-être pour la dégonfler.
Il y a une solution qui a bien marché jusqu'à présent.
Des tactiques, des...
On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est ce que j'appelle les débats écrans. Lancer régulièrement des débats écrans, ça c'est une première piste, quand c'est pas encore trop chaud. Une seconde piste, et on commence à y être, c'est de transformer une partie de notre population en bouc émissaire, un peu comme la bourgeoisie allemande avec le nazisme a utilisé les juifs comme bouc émissaire des contradictions du capitalisme. Et aujourd'hui, l'islamophobie, hein, la mise en avant quand même, l'affaire de la burqa en plein, qui arrive juste au moment du débat sur la retraite. C'était quand même extraordinaire. Hein. On s'est souvenu qu'il y avait quelques centaines de filles qui avaient la burqa juste quand il fallait parler des retraites. Ça, c'est extraordinaire. Et ça arrive en septembre. Ça arrive en septembre, au moment où tout le monde sait que la rentrée... Bien, notre capacité à réagir fortement à la rentrée va aussi déterminer le rapport de force. Et c'est à ce moment-là que ça passe à l'Assemblée. Et je peux garantir à l'avance qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'émissions médiatiques sur la burqa et sur le danger de la burqa.
Mais ça fout la merde, ça, quand même. Ça fout la merde. Ouais. C'est en train de détruire des relations sociales. C'est en train de...
Absolument.
Ils s'en foutent aussi, ça.
Bien sûr, d'autant ils s'en foutent.
Leur
critère, c'est qu'est-ce que ça rapporte. Eux, ça rapporte de diviser des gens qui devraient être unis et d'unir des gens qui devraient être divisés. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la seconde dimension. Et la troisième dimension, nous n'y sommes pas. La troisième dimension, eh bien, quand la bourgeoisie a très peur, parce que ça bouge vraiment, il lui reste le fascisme. Il lui reste le fascisme. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. La bourgeoisie n'a pas besoin du fascisme. Mais il faut avoir en tête qu'elle peut laisser aujourd'hui un fer sur le feu qui est le fer du fascisme. Je rappelle quand même que vous avez suivi, hein, dans la région parisienne, enfin à Paris, la tentative d'apéro saucisson
qui était
mise en place.
Ouais,
et on avait côte à côte le bloc identitaire, qui sont des fascistes ouverts, avec des gens qui se disent de gauche, qui se disent laïcs, etc., et qui étaient côte à côte les uns à côté des autres. Eh bien ça, à chaque fois, si ça se développe, ça veut dire que la bourgeoisie est en train de gagner, c'est-à-dire que sa construction d'un bouc émissaire permet d'éviter que des gens qui devraient se battre ensemble, bien, soient ensemble. Et je pense que c'est une manière de diviser.
On a entendu sur cette antenne, dans cette émission, une interview de Ricardo Montserrat à l'IST il y a un mois peut-être, hein, et il faut essayer de la réécouter sur le site parce que c'était saisissant. Ricardo Montserrat, qui a fait une enquête lui aussi dans le Pas-de-Calais, un petit peu dans la jeunesse, où il nous disait qu'une grande partie de la jeunesse, dans certaines zones qui sont les zones périurbaines, on va dire, hein, donc c'est pas tout à fait rural, c'est pas tout à fait la ville, c'est l'entre-deux, notamment dans la région, une bonne partie de cette jeunesse était gagnée aux idées dites identitaires, c'est comme ça qu'ils s'appellent maintenant. Le 26 juin, samedi, il y a un concert, je crois sur Lille, hein, dans ce qu'on appelle ou sur Lille ou Lambersart, enfin aux alentours. Mais allez sur les sites, regardez un petit peu parce que il y aura une manif, je pense, ouais. Pour contrecarrer. Il y a un concert identitaire, etc. C'est en train de rentrer quand même dans les mœurs. C'est ce que disait Ricardo Montserrat, c'est que ces jeunes-là, pour lui, c'était une évidence. Il y avait la masse des jeunes pour qui c'était une mode, en quelque sorte. De se livrer au rock identitaire, machin, mais c'est des trucs, c'est raciste, hein, bien évidemment, c'est fachou. Mais il disait, ils sont encadrés, c'est sûr, il y a des mecs qui pensent, et il ajoutait, et ils sont payés, ils sont financés. Et il disait, moi, je crains le moment où on va décider de les mettre en avant parce qu'ils sont préparés. Quoi.
Absolument, absolument, ça, c'est les leçons de l'histoire, je veux dire, ceux qui pensent que le nazisme, c'est uniquement un fou qui s'appelle Hitler qui s'est réveillé un matin. Ce fou aurait pu garder ses idées tout seul ou avec un petit groupe. S'il est monté, s'il s'est développé, c'est parce que la classe dominante en avait besoin, parce qu'elle avait peur de la révolte du peuple allemand. Et donc, la question qui est posée, c'est vraiment aujourd'hui de comment on construit la contre-offensive populaire, à la fois dans le rapport de force immédiat dans la rue, mais aussi en allant à la rencontre de tous ceux qui, parce que justement ça devient invivable, peuvent être attirés par des discours qui sont des discours qui détournent la colère.
Alors les retraites, donc demain, je le rappelle, 14h30, porte de Paris à Lille, une grande manifestation qui s'annonce effectivement grande, hein, d'après les petits sondages qu'on a pu faire autour de nous. La question des retraites, c'est encore une grande entourloupe, là, hein, c'est encore un grand enfumage, hein, on vit plus longtemps, on va faire la cotisation plus longtemps, etc. Les mesures du gouvernement...
D'abord, avant de parler de nouvelles réformes, ce serait bien, et j'aimerais bien que nos syndicats le disent un peu plus, qu'on fasse le bilan des dernières réformes des retraites, parce qu'on a quand même quelques chiffres qui soulignent quand même ce que ça donne. Le niveau des pensions, depuis la réforme Balladur, a baissé de 20%.
Qu'est-ce qui a signé, au fait, à cette époque-là?
C'était la gauche.
Ouais.
Non, je crois.
Attends.
Les
partenaires sociaux, ouais, les partenaires sociaux qui ont, comme on dit partenaires sociaux, hein, c'est bien ça, hein, je me trompe pas, on dit pas adversaires sociaux, on dit partenaires sociaux.
Balladur, c'était sous une grande cohabitation avec Mitterrand, et puis à l'époque, on a la CFDT, il y avait Nicole Notat, voilà, qui avait accueilli avec plaisir.
C'est bien la gauche, quoi. Cette partie
qui a re-signé ensuite. Non, mais c'est comme dans le
vestiaire. Ils aiment beaucoup signer.
C'est comme dans le vestiaire des Bleus, il y a un jaune.
Voilà, ouais. En tout cas, le niveau de pension a baissé de 20%. Vous imaginez ce que ça veut dire? 4 millions de retraités aujourd'hui, suite à ces réformes, perçoivent 590 euros. Tous nos auditeurs peuvent se rendre compte de ce qu'on peut faire avec 590 euros et donc comment on peut vivre avec, avec ces sommes-là. Ils sont plus de 5 millions à percevoir entre 800 et 1100 euros. On a aujourd'hui 85% des hommes qui partent en retraite sans la pension complète. Et 40% des femmes peuvent bénéficier d'une pension complète. Autrement dit, l'inverse, 85% des hommes qui partent avec une pension complète et 40% des femmes qui partent avec une pension complète. Autrement dit, on voit bien ce qu'il y a derrière. Les premières réformes comme celle-là, ça n'est pas du tout d'équilibrer le système, c'est d'obliger les personnes à partir avec une retraite en diminution. Le véritable chiffre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre sur les 60 ans, il faut se battre sur les 60 ans parce que c'est un repère important, mais le véritable chiffre, c'est le passage de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans, quand on n'a pas l'ensemble des... Et ça, ça veut dire quoi? Pour certaines catégories, ça veut dire qu'on aura 2 ans, 3 ans de vie après la retraite. Et ils savent très bien que les gens vont partir beaucoup plus tôt. Et donc, le sens de la réforme, c'est des euros sonnants et trébuchants à court terme, puisque les gens vont être contraints de partir à la retraite parce qu'ils ne tiendront pas, mais ils auront des pensions en moins. Et tout ça, ça fait partie du rapt que l'on fait vis-à-vis des milieux populaires.
Et en plus, ces jeunes retraités, entre guillemets, on saura les remettre au boulot, puisqu'il y a même des dispositifs qui prévoient de les avoir pour pas
absolument,
cher.
Absolument.
Hein, c'est déjà le cas aujourd'hui pour les plus de 50 ans. Je pense qu'on est une entreprise, elle prend un god, voilà, elle le prend 6 mois, elle touche le pognon, après elle le fout dehors.
Absolument. Et si on veut maintenant de nouveau comparer, si tout le monde est dans le même bateau et si nous payons tous, puisque sur la retraite c'est ce qu'on nous a dit, tout le monde va contribuer. Eh bien, on a d'un côté 2 ans d'une vie qui sont pris aux salariés et d'un autre côté 1% d'augmentation de l'impôt en direction des plus riches. C'est-à-dire 70 euros par an pour les fortunes moyennes de la bourgeoisie. Voilà, ta vie, 2 ans de ton travail, c'est 70 euros.
Alors demain, on sera...
140 euros. 140, tu coûtes 140 euros pour 2 ans. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire.
Je m'attendais quand même un petit peu plus, mais bon. demain, on sera nombreux dans la rue, mais après, c'est juillet, août. Voilà. Comment on peut envisager, toi qui fais. Bon, on parle de météo. La météo, des fois, il y a des tendances, hein, des tendances sur les jours et les mois qui suivent. Cette grande mobilisation qu'on peut attendre demain, elle sera suivie de quoi?
Alors, d'abord, je pense que demain, nous serons nombreux. Tous les indicateurs, même les médias bourgeois, sont contraints depuis 2 jours, là, hein, auparavant.
Nous l'ont dit,
pas, ils vont peut-être pas réussir. Là, depuis 2 jours, ça devient évident qu'il y aura du monde.
Et nous, on le savait avant. Ça veut dire que par rapport aux journalistes, on a une longueur d'avance. Donc, je le dis à l'attention de nos auditeurs aussi. Hein. Vous en savez souvent plus que les journalistes. Hein.
Et je voudrais dire aux auditeurs qu'il faut regarder le dernier sondage qui est extrêmement intéressant. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en gros, près de 30%, près de 70% de la population, entre 60 et 70, j'ai plus le chiffre exact en tête, indiquait qu'ils étaient contre cette réforme et qu'ils étaient en colère contre cette réforme, et à peu près 30% disant il faut absolument se bouger tout de suite et arrêter ça, ce qui veut dire qu'il y a quand même entre 30 et 40% des Français qui sont contre la réforme, mais qui pensent qu'on n'y peut rien. Et donc c'est bien la question de l'espoir collectif, du fait d'être offensif, et là les syndicats ont de nouveau une sacrée responsabilité.
La bataille des idées aussi.
La bataille des idées, c'est possible de gagner, tout dépend de notre nombre et de notre ténacité. Alors c'est vrai qu'à la coupure des vacances, beaucoup de choses peuvent se passer pendant les vacances. Je pense que vraiment il faut qu'on s'habitue à un premier réflexe. Les révoltes peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Moi je suis sur une posture aujourd'hui qui est de dire... Cette classe dominante a foutu la pauvreté, les derniers chiffres de la pauvreté l'indiquent, hein, la France entière s'est paupérisée, et les quartiers populaires encore plus, a tellement paupérisé notre société que les formes de la révolte peuvent prendre des formes différentes. Je parle de la posture qui est de dire, a priori, je soutiens toutes les formes de révolte. Il se peut que ça soit des quartiers populaires qui explosent. Il se peut que ça soit sous la forme d'aller piller comme en Argentine des supermarchés, etc. Il se peut que ça soit des grèves qui cet été s'ancrent dans la durée. Il se peut que ça soit à la rentrée un mouvement massif, etc. N'allons pas reprocher aux dominés les formes de leur révolte. Un dominé, ça se révolte comme il peut, en fonction des ressources qu'il a autour. Et arrêtons entre nous de dire, mais ça, c'est pas tout à fait la bonne chose, etc. En face, ils sont capables, même quand ils sont divisés, de s'unir pour montrer un visage de sagesse commune, etc. Eh bien, soyons plus sévères avec ceux qui sont en face qu'avec les divergences que nous avons à l'intérieur. Nous savons laver notre linge sale entre nous, nous le ferons, on a le droit de pas être d'accord, mais face à la bourgeoisie, soyons unis, sinon elle utilisera toutes les failles, pour diviser ce qu'elle sait être une grande offensive, ce qu'elle sait pouvant devenir une grande offensive.
Donc déjà, demain, Porte de Paris, 14h30 à Lille, tous ensemble.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Aucun de vous ne pourra dire au contraire. Notre histoire est dans le mur. Je ne serai rien sans le secours populaire. C'est sûr, à faire comme d'habitude. Venu végère l'amertume des prolétaires exclus. Ici l'espoir s'appelle PMU. Issu des pauvres, ma rancœur est légitime. Je suis son bourgeois, ce que les noirs sont au skin. Aussi sincère que les paroles d'un alcoolique. J'ai évacué mon fardeau en remplissant des verres. Oublie l'amour, y'a pas de serrure à cette porte. L'argent ne fait pas le bonheur de porc, les clodos se révoltent. Comme le pouvoir d'achat de ma race en chute libre. Si la faim fait des déterminés, je chante encore le ventre vide. De force, ils maintiennent nos têtes sous l'eau. Leurs poches déportent, on s'enlise les minima sociaux. Prolonge bien sûr, nos portes sont closes. Les restaurants du cœur sont le paradis des pauvres. De la frange, j'en suis la face cachée. Résident entassé dans d'immenses têtes. Sans argent, leur femme est noyée dans les têtes. Constamment ignorée, même si on m'en dit de l'aide. Juste qu'ils appellent un déchet à qui on lance des miettes. Inexistant, méprisé. Blanc, arabe ou nègre, évidemment le décès. C'est ce qu'ils nous souhaitent, ils devraient s'en inquiéter. Prolétaires, marche ou grève.
Prolétariat,
rare des soupçons.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent.
Prolétariat,
des braves, des bonhommes.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
rejeté par le reste du monde, on m'a appris à se relever seul.
Bêtement,
ce monde est trop inquiétant. Les richesses dans les caisses de la France, c'est l'argent des ouvriers dans le surendettement. Je suis un prolétaire avec le sens de l'acharnement. Aussi vrai que mes semblables puent le désespoir. Chez nous la réussite c'est être smicard. Si l'argent nous fuit, lui c'est lui, n'est jamais en retard. La misère c'est le fric des politicards. Tricard car français de souche brûlée. Mise à l'écart, chien de la caste. De la caste des ouvriers. Mon quotidien en carence. Je viens du Havre, même la mer fait la manche. Prolétariat, pauvreté, rien. Pour l'état, y'a l'élite, elle est pas point. Aussi des conseillers que des chiottes publiques. I'm prolétaire, donc panique.
Prolétariat,
les rares des soupçons.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent.
Prolétariat,
des braves, des bonhommes.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
c'est par le reste du monde, on m'a appris à se rendre.
Les conseils du monde aide. RMI, RSA, APL, CMU, CAF, ANPE, API, FSLNP, ALCR, CGT, SDF, SOS, en feu de détresse, je mène le même combat qu'Henri Grouès.
Des cafards comme colocataires, ma race et celle d'en bas qui dans les galères se moquent. Reste par terre, crois-moi, frère, pas de fraîche, pas droit, leur salaire fait notre poids. J'étais précaire, bien avant de faire du peuple, race n'est pas des voix, mais bien nos HLM, APL comme partenaire, notre roi rara, terre, aucun remède, prolétaire ou indigène, habitué des dettes. L'argent n'a pas d'odeur, merde, mes mains, elles sentent la merde. Même le ventre à terre, je resterai des terres, venu faire des inégalités, ma guerre. Donne-moi un beat, je dynamite leur gratin. Donne-moi une arme, je te fais de l'art contemporain. Le macadam est dans ma peau, mes plaies sur le conflit emmené pauvre. Je suis ghetto, depuis l'époque d'Alpha Blondie qui à l'écran. A des excuses solides, la fin justifie le braco. Brave comme Bendit.
Prolétariat,
les rares des soupçons.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
rejeté par le reste du monde dans ces tours qui nous emprisonnent.
Prolétariat,
des braves, des bonhommes.
Prolétariat,
c'est ce que nous sommes.
Prolétariat,
rejeté par le reste du monde, on m'a appris à se relever seul.
Prolétariat.
Proletariat.
c'est toujours l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. Et juste avant de retrouver notre invité, qui est notre camarade Saïd Bouamama, pour continuer un petit peu sur la météo de la crise, quelques petits rendez-vous, Majid.
Oui, quelques petits... c'est pas des petits rendez-vous, c'est des grands rendez-vous. Ce
des
samedi,
grands rendez-vous.
Ce samedi à 14h30, à l'initiative de l'AFPS Villeneuve-d'Ascq, qui vous invite à venir échanger sur la résistance populaire en Palestine. C'est avec Fethi Ekhderat, coordinateur des comités de résistance populaire et coordinateur de Jordan Valley Solidarity. C'est un salarié de l'association MAN, qui veut dire ensemble. La résistance populaire non violente, initiée par le village de Béline, près de Ramallah, se développe de plus en plus. Et plusieurs villages ont rejoint la lutte cette année. Plus de 13 villages en Cisjordanie, la même stratégie de lutte à Jérusalem, Gaza a rejoint ce mouvement. Fethi Ekhderat nous exposera comment s'organise la résistance, comment elle se développe, pourquoi les manifestations pacifiques sont réprimées si sévèrement. Il nous parlera aussi des projets propres à la vallée du Jourdain et en lien avec l'AFPS. Nous avons en commun, là ça veut dire l'AFPS et l'association MAN, un projet de plantation de dattiers. Il nous expliquera l'objectif de cette coopération ambitieuse. Enfin, quel soutien pouvons-nous apporter à la résistance et pour quelle efficacité? Je répète,
c'est
samedi 26 juin à partir de 14h30 à la Maison des Droits de l'Homme. Nelson Mandela.
Il y a un stade aussi à son nom. Il n'y a pas que la maison des droits. Mais
à côté de l'hôtel de ville de Villeneuve-d'Ascq. C'est pas loin de la mairie. Saïd, une réaction là-dessus.
Saïd, ouais. Et puis heureusement qu'Israël ne participe pas à la Coupe du Monde, sinon il y aurait un carnage dans les surfaces de réparation. On a beaucoup parlé de la flottille ici sur cette antenne, mais quelques réactions oui sur ce qui s'est passé récemment, quoi.
D'abord, une petite réaction sur l'importance d'aller à cette initiative, et y compris de le relier au débat qu'on avait juste avant. Les Palestiniens nous donnent un exemple de ce que c'est qu'un front de résistance. Ils sont pas d'accord entre eux, il y a des forces politiques très différentes, mais ils sont unis dans un front de résistance. Du Hamas au FPLP, quand vous lisez les déclarations, ils masquent pas leurs divergences, mais ça les empêche pas d'être ensemble dans une même résistance. C'est ce que la classe ouvrière en France doit gagner. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais par contre, effectivement, lorsqu'il s'agit de se défendre et de défendre ses intérêts, eh bien de le faire ensemble.
Et Fatih, donc qui sera présent samedi, c'est le coordinateur des comités de résistance populaire. Et ces comités de résistance populaire portent bien leur nom parce que c'est vraiment un travail de terrain auprès des populations. Hein. Vous le comprenez, cette météo de la crise, eh bien, comme souvent, elle s'élargit au niveau international. Et c'est pour ça qu'il y a un autre rendez-vous le même jour, mais qui est très important et dans lequel d'ailleurs notre météorologue du jour sera l'un des intervenants, Majid.
Oui, donc c'est samedi, ce samedi à la MEP. La MEP, c'est la maison d'éducation permanente, place Georges Lyon, métro République. Et c'est à partir de 14h. Après la traite des Noirs, l'esclavage, le colonialisme, 50 ans d'indépendance volée, 1960, enfin les années 60, jusqu'à nos jours. 2010.
Il s'agit bien de l'Afrique, hein. Quand on parle de 50 ans d'indépendance, volée.
C'est à l'initiative du collectif Afrique, avec Odile Biedi, j'espère que je prononce mal, mais malheureusement.
Bah Biedi, ça se doit se prononcer Biedi, à mon avis.
À mon avis, oui. Présidente de l'association Survie, Nicolas.
Survie, donc c'est l'association, une association. Il est mort, je pense. Comment il s'appelait François-Xavier
Verschave.
Hein, pour les auditeurs, parce qu'il a écrit quand même des bouquins.
Il a écrit beaucoup sur la France-Afrique.
Sur la France-Afrique, voilà, c'est une référence, ouais. L'association Survie.
Nicolas Agbou, auteur de la France-Afrique. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique.
Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique.
Mohamed Hassan, spécialiste du monde arabe et de la corne de l'Afrique.
Ah oui, c'est quelqu'un de très, très bon.
Et notre invité, notre consultant, Saïd, ici présent. Il y aura une projection d'un documentaire et repas de solidarité avec le peuple congolais. Tout ceci vous coûtera une dizaine d'euros si vous restez manger. Je répète, c'est ce samedi,
ça, c'est très important.
C'est à la MEP,
et on
la Georges Lyon, métro République, à partir de 14h,
sur la
à l'initiative
Afrique.
Du collectif Afrique.
Il n'y a pas des changements quand même en Afrique en ce moment, Saïd? Bon, c'est vrai, la Coupe du Monde, elle se déroule en Afrique, déjà. Je le disais, il y a aussi, il n'y a pas qu'une maison des droits de l'homme Nelson Mandela, il y a même un stade Nelson Mandela. Sur les images qu'on peut voir, hein, moi je vois une fierté quand même des Sud-Africains quand on voit d'où ils viennent. Quand même, ça montre aussi que les choses elles peuvent changer.
Oui, alors il n'y a pas seulement.
Parce que rien n'est rose, hein, c'est, la bourgeoisie a pris le pouvoir en Afrique du Sud, il n'y a pas de souci. Mais les choses changent quand même. Il y a une forme de fierté. Et puis les échanges avec la Chine aussi, hier je voyais un reportage sur la RTBF, je pense, où on voyait la présence chinoise au Congo. Est-ce que c'est juste le relais, la France-Afrique par exemple, et les Occidentaux, et la Chine vient prendre juste le relais, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer aussi en Afrique?
D'abord, les bourgeoisies africaines ne pensent qu'à leur profit.
Et
quand elles font appel à la Chine, c'est que tout simplement les conditions des échanges sont plus égalitaires, favorable, plus justes et plus favorables. Et donc, ça indique aussi le type d'échange qu'ont nos pays européens ou les USA et les échanges qu'a la Chine aujourd'hui. Donc ça c'est le premier élément. Par rapport à ce qui change en Afrique, là où tu as raison de souligner, c'est qu'effectivement depuis maintenant, allez on va dire deux décennies, se développe en Afrique de nouveau une multitude d'organisations, d'associations de la société civile autour, ça ne veut pas dire que tout est clarifié, hein, mais autour au moins de trois points. Premièrement, l'idée que la colonisation n'est pas achevée et qu'elle a été détournée. Et ça, il suffit de regarder le développement des groupes comme ATTAC dans un certain nombre de pays d'Afrique qui se sont développés. Également, les forums sociaux africains qui se mettent en place et qui se sont construits à la fois en articulation avec les forums sociaux mondiaux, mais aussi en mettant en avant une volonté d'indépendance. Le prochain est cet été au Sénégal. S'il y a des auditeurs qui veulent y aller, je pense à vous toujours le coup, parce que là, vous rencontrez des syndicats de paysans, des syndicats de travailleurs sans terre, etc., des artisans regroupés en coopérative et qui donc mettent en avant cette idée que la colonisation a été détournée et qu'elle n'a pas débouché sur l'amélioration des conditions de vie. La seconde chose, c'est que le mot d'ordre d'États-Unis d'Afrique commence à ressurgir. Alors bien sûr, de manière un peu idéaliste, mais en tout cas, elle commence à ressurgir. Mais même à Lille, vous le voyez, hein, c'était au débat sur la Palestine, j'étais étonné de voir en particulier le nombre de petits Français issus de l'immigration algérienne ou marocaine avec... United States of Africa. Donc, y compris ici, ça arrive. Mais si vous allez, moi, quand j'étais à Dakar, c'est assez effarant de voir comment cette idée d'États-Unis, donc cette idée que c'est en s'unifiant qu'on va pouvoir résister à l'impérialisme. Et le troisième point, c'est le développement des mouvements politiques. On a, même s'ils sont pas visibles dans les médias, etc., mais on a le développement de forces politiques de gauche qui se mettent en place en Afrique. Hein. Récemment, au Burkina Faso, plusieurs groupes qui se revendiquaient du marxisme, par exemple, se sont unifiés en un seul parti. Donc, on est dans une phase où tout ça est en voie de changement. Et c'est essentiel parce que il faut vraiment prendre au sérieux lorsqu'on dit que c'est la plus grande crise depuis la crise de 29. Ça veut dire quoi la plus grande crise depuis la crise de 29? Ça veut dire que pour s'en sortir, ils vont devoir appauvrir ici, mais ils vont devoir aussi recoloniser au sens propre du terme. Alors pas forcément dans exactement les mêmes formes, mais ils vont devoir recoloniser. Et nous sommes dans une phase de tentative de recolonisation de l'Afrique. Face à ça, dans les milieux populaires, eh bien, il y a des résistances, mais y compris dans certaines fractions de la bourgeoisie nationale qui voulait un capitalisme autonome, que ivoirien, burkinabé, etc. Eh bien, il y a des actes de résistance. Et donc, le débat de samedi, il est essentiel parce que, comme le disait Ho Chi Minh, ce qui permet d'avancer, c'est lorsque toutes les pieuvres, toutes les tentacules d'une pieuvre sont attaquées en même temps. Il y a une tentacule qui est posée sur les pays qui sont néocolonisés aujourd'hui et une tentacule qui est posée sur les classes ouvrières des pays capitalistes. C'est en attaquant les deux tentacules en même temps qu'on va pouvoir affaiblir l'adversaire commun.
Moi, j'aurais plutôt dit il faut attaquer les testicules. On rappelle, c'est samedi à la MEP.
Donc, on rappelle
à 14h.
Samedi à la MEP à 14h.
Donc, c'est à Lille.
Il y a une projection d'un documentaire. Donc, serait sympathique d'arriver exactement à l'heure. Quoi.
2-3 minutes, la Troisième Guerre mondiale. On parle toujours de météo et de prévision. Hein. Je dis ça de manière un peu provocatrice, à la façon Domenech, quoi, hein, provocation. Il y a eu des mouvements dans le canal de Suez. Enfin, le canal de Suez a laissé passer une dizaine de navires militaires états-uniens et israéliens, me semble-t-il. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une coupure dans les relations diplomatiques entre Israël et son allié dans la région, qui était la Turquie. Bon, bon, que la flottille a bien montré. On voit qu'en Turquie, justement, tiens, comme par hasard, il y a des attaques du PKK ou de gens qui seraient liés à la mouvance kurde, etc. Et on sent derrière, toujours, il y a toujours bien sûr derrière, l'Iran avec ce développement. Bon, est-ce que, pour parler clairement, puisqu'on doit faire vite, est-ce que se prépare une guerre contre l'Iran ?
Les guerres mondiales, que ce soit la première ou la seconde, ont toujours commencé d'abord par des affrontements économiques, une guerre économique qui s'est transformée en guerre militaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de guerre économique, ce qui n'empêche pas de préparer la guerre militaire. On ne peut rien comprendre à la situation mondiale et dans chacun des coins du monde si on n'introduit pas trois combats que se livrent aujourd'hui les grandes puissances. Un, le combat pour l'énergie. Il y a un certain nombre de conflits qui sont compréhensibles si on regarde où sont les sources d'énergie et qui a intérêt à les maîtriser. Deux, le combat pour les matières premières, les autres matières premières. Et là, on a une... Et puis troisièmement, le combat sur qui va payer la crise. Parce que outre le fait de faire payer le peuple, chacun des impérialismes tente de pomper sur son voisin. Par exemple, les attaques, les fameuses attaques contre l'euro, en réalité, sont une tentative des USA de faire payer à l'Europe une partie de sa crise. Et donc, ces trois dimensions-là indiquent que nous sommes déjà en guerre économique exacerbée. Est-ce que ça va passer tout de suite en guerre militaire ? Sans doute non. Par contre, des guerres locales, dans lesquelles, par cause interposée, chacun va s'affronter, oui. Et aujourd'hui, effectivement, contre l'Iran, aujourd'hui, il y a des préparatifs de guerre extrêmement importants. Et
Israël joue un rôle, mais alors phénoménal, dans cette affaire, de vraiment d'avant-poste de la guerre, quoi, de la militarisation.
Mais pourquoi les USA soutiendraient-ils autant Israël si ça n'était pas l'avant-poste d'où peut partir les guerres dont ils ont besoin dans la région? Il n'y a pas d'intérêt économique en soi à soutenir Israël. Par contre, il y a intérêt d'avoir une citadelle qui donne des prétextes et des excuses pour déclencher des guerres quand on en a besoin.
Donc les questions de religion derrière, c'est vraiment l'instrumentalisation
de l'Ouest. Hein,
on est d'accord. On va retrouver dans quelques instants la semaine à Cuba, je le rappelle, un programme d'échange et de collaboration avec nos amis de Radio Habana.
Puisqu'on a cité les rendez-vous, c'est le quatrième vendredi. C'est le quatrième vendredi. Et le quatrième vendredi, c'est l'association...
Ah oui.
France, Cuba, l'île métropole, qui invite tout le monde à une heure de soutien aux cinq, les cinq emprisonnés illégalement et contre tout le droit international,
le bon sens, à chaque fois.
Rassemblement.
Grand place à Lille, vendredi à 18h30.
De 18h30 à 19h30. C'est une
pour
heure
les cinq.
De soutien
aux cinq
par mois.
Cuba.
C'est le quatrième vendredi et non pas le dernier, parce qu'il y en a qui pensent que c'est le dernier.
C'est l'anarchie ici. On dirait que les studios de campus se sont transformés en, on dirait, le vestiaire des Bleus.
Ça se
il y a des
Benoît.
Prises de pouvoir. Benoît est là.
Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir à tous les auditeurs et aux animateurs. Juste une question pour Saïd.
Ah non, on n'a plus le temps là.
Vas-y. Un truc un petit peu à la conseil. Tout compte fait, ce qui se passe au niveau géopolitique dans le Moyen-Orient, c'est avant tout le pétrole. Le pétrole, il en reste pour 30 ans. À ton avis, est-ce que Israël survivra à la fin du pétrole ?
Voilà, si on fait une autre émission ou... Vas-y.
Non, mais juste en deux secondes. D'abord, c'est pas le pétrole, c'est le gaz. Hein. Le pétrole, effectivement, à court terme, par contre, le besoin de gaz, il va rester plusieurs décennies encore. La seconde chose, c'est que tous les discours sur les énergies alternatives sont en fonction de, en disant il va falloir passer à autre chose parce que le pétrole va s'épuiser, sont en fonction de notre connaissance actuelle des gisements.
Ah oui,
année, on en découvre encore et pas des petits gisements. Autrement dit, personne ne sait aujourd'hui jusque quand le capitalisme aura comme énergie principale le pétrole et le gaz. Et en fait, c'est encore au moins pour 50 ans. Et le capitalisme, on le sait, ne fonctionne pas à 200 ans d'avance. Hein, c'est Marx qui nous disait, les capitalistes voient au bout de leur nez, c'est à court terme, et donc 50 ans, ça leur suffit.
La semaine à Cuba.
Les majoritaires de la Terre, esclaves de l'ère nucléaire, indiens survivants d'Amérique, descendants d'esclaves d'Afrique, plébéiens pauvres d'Occident, d'Océanie, d'Asie, d'Orient. Un jour danseront sur l'air du chant des damnés de la terre. C'est en combattant la misère qu'on peut lutter contre la guerre. Les majoritaires de la terre, esclaves de l'ère nucléaire, gamins des rues de Bogota, de Conakry, de Calcutta, enfants des ghettos, des cités parqués derrière les barbelés, tous un jour danseront sur l'air du chant des damnés. La terre, c'est en combattant la misère qu'on peut lutter. jour danseront sur l'air du chant des damnés et de la terre. C'est en combattant la misère qu'on peut lutter contre la guerre. Les majoritaires de la terre, esclaves de l'ère nucléaire, victimes des guerres commerciales, de l'empire et du capital. Mangeurs de vaches carnivores, enfants du sida qui dévore, en ces temps apocalyptiques de guerre bactériologique. Tous un jour danseront sur l'air du chant des damnés et de la terre. C'est en combattant la misère qu'on peut lutter contre la guerre. Tous un jour danseront sur l'air du chant des damnés et de la terre. C'est en combattant la misère qu'on peut lutter contre la guerre. Aujourd'hui, nous sommes des millions contre la guerre dans le monde entier. Contre la guerre, nous sommes des millions. À bas la guerre. Révolution.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
À bas la guerre.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
Révolution.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
À bas la guerre.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
Révolution.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
À bas la guerre.
Contre la guerre, nous sommes des millions. Contre la guerre, nous sommes des millions.
À bas la guerre.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
Révolution.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
À bas la guerre.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
Révolution.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
À bas la guerre.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
Révolution.
Contre la guerre, nous sommes des millions.
Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo toda la América Latina.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La semaine à Cuba. Cette semaine est surtout marquée par la visite de Monseigneur Dominique Mamberti, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, qui a assisté jeudi à un spectacle culturel dans la basilique mineure de Saint-François d'Assise à La Havane à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Vatican. Monseigneur Mamberti et Bruno Rodriguez, ministre cubain des Affaires étrangères, ont eu des conversations officielles, au terme desquelles ils ont donné une conférence de presse au cours de laquelle Monseigneur Mamberti s'était dit heureux de sa visite à Cuba. Il a alors relevé.
Muchas gracias por su cordial acogida. Es un placer para mí encontrarme hoy.
Merci pour votre accueil chaleureux. C'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui à Cuba. Je veux vous remercier, vous tous, de l'intérêt que ma visite a éveillé. C'est une étape importante et je suis heureux de pouvoir partager avec vous ces jours-ci, ces activités organisées par l'Église.
Me quedaré aquí en Cuba hasta el domingo y estoy seguro.
Je resterai à Cuba jusqu'au dimanche. Je suis sûr que ma visite renforcera les bonnes relations existantes entre Cuba et le Saint-Siège et le dialogue entre l'Église à Cuba et les autorités cubaines. Merci beaucoup pour tout.
Pour sa part, le ministre cubain des Affaires étrangères qualifiait de fluides, profondes et cordiales ces conversations. Il a également évalué de très positive la visite du haut représentant du Saint-Siège à Cuba.
Tengo la convicción profunda de que su visita oficial y pastoral será una contribución al bienestar y a la conquista de todos los anhelos.
J'ai la conviction profonde que votre visite officielle et pastorale sera une importante contribution au bien-être du peuple cubain, à la conquête de tous ses rêves. Je suis sûr que la visite sera mémorable, très fructueuse et mutuellement enrichissante.
Bruno Rodriguez s'est référé au fait que Cuba et le Vatican partagent les mêmes points de vue sur des questions concernant la famille, l'attention aux enfants, l'éducation, la santé et sur bien d'autres problèmes qui affectent le monde à l'heure actuelle. Il a ajouté.
Al mismo tiempo hemos coincidido en la necesidad de defender los valores espirituales en un mundo difícil.
Nous coïncidons aussi sur la nécessité de défendre les valeurs spirituelles dans un monde difficile, de protéger l'environnement, d'éduquer les enfants et les jeunes dans cette culture de protection de la nature, de préserver l'accès des personnes à l'éducation, à la santé publique. Nous partageons aussi la préoccupation pour les plus démunis. Nous coïncidons sur la nécessité de garantir l'égalité d'opportunités à tous les enfants de la planète, sur la défense des secteurs les plus vulnérables, des personnes touchant les revenus les plus bas, tout en mettant l'accent sur le concept du bien commun, de la solidarité humaine. Dans ces thèmes et dans bien d'autres comme l'accès général aux services sociaux, l'élimination de la pauvreté, nous pouvons dire que nous avons des points de vue convergents. L'encyclique sociale contient des approches partagées par le Vatican et la plupart des pays du tiers-monde.
Durant la conférence de presse, le secrétaire du Vatican pour les relations avec les États avait confirmé la position de rejet par le Saint-Siège de la politique hostile des États-Unis contre Cuba. À ce sujet, le ministre cubain des Affaires étrangères a souligné.
La Santa Sede a dirigido comunicaciones al secretario general de Naciones Unidas.
Le Saint-Siège a adressé des communications au secrétaire général des Nations Unies faisant état de sa position concernant ce thème. J'ai transmis à Mgr Bertoni, à sa sainteté, les remerciements de notre peuple au Vatican pour sa position face à ce blocus qui reste en vigueur en ce moment où il y a une opposition croissante au blocus à l'échelle mondiale, y compris au sein de la société états-unienne.
Dans un domaine différent, le ministère cubain des Affaires étrangères a rejeté cette semaine les allégations irrespectueuses contenues dans le rapport du Département d'État des États-Unis sur la traite de personnes et l'inclusion de Cuba dans la pire de ces catégories. Une déclaration de Cuba qualifiée de honteuse les calomnies qui offensent énormément le peuple cubain. À Cuba, la traite sexuelle de mineurs n'existe pas. Au contraire, notre pays réalise un travail exemplaire en matière de protection de l'enfance, de la jeunesse et de la femme, soulignait Josefina Vidal, la directrice de l'Amérique du Nord du ministère cubain des Affaires étrangères. Cuba ne rentre pas dans la catégorie de pays d'origine, de transit ou de destination de ce fléau, a précisé la déclaration. Les lois et les mesures adoptées dans ce domaine nous placent parmi les pays de la région ayant les normes et les mécanismes les plus avancés dans la prévention et la lutte contre la traite de personnes, a-t-elle indiqué. Cela peut seulement s'expliquer, soulignait la déclaration, à cause du besoin désespéré qu'a Washington de justifier par n'importe quel prétexte le maintien de la politique cruelle de blocus économique, financier et commercial imposée au peuple cubain, cela fait presque 50 ans déjà, et que la communauté internationale condamne à la majorité écrasante. Cette semaine aussi, un recours en cassation, dernier recours légal en faveur de la libération de Gerardo Hernández, un des 5 antiterroristes cubains, justement en prison aux États-Unis, était présenté devant la Cour fédérale de Miami. L'équipe de la défense a réuni pour ce faire de nouvelles preuves confirmant l'innocence de Gerardo, condamné à 2 prisons à vie plus 15 ans de prison pour conspiration afin de commettre de l'espionnage et conspiration pour tuer. Le texte de ce recours en cassation dénonce également la manipulation des évidences et dans bien de cas leur dissimulation, ce qui a fait obstruction à la justice. Le 2 juin, le comité états-unien Free the Five pour la libération de nos 5 compatriotes dénonçait les pots de vin que la Maison-Blanche a versé à un groupe de journalistes pour influencer l'opinion publique avant que le tribunal n'ait prononcé son arrêt. Le recours en cassation a été présenté uniquement au nom de Gerardo Hernández, car la Cour suprême des États-Unis a refusé de réviser son cas en juin 2009. au sujet des efforts réalisés pour obtenir une réduction de la peine de Gerardo, Elizabeth Talmiro, la femme de Ramón, déclarait.
Depuis le jour même où ils ont été incarcérés, ils ont assumé une attitude très correcte qui a consisté à toujours se préoccuper pour la situation de leurs camarades, y compris à la mettre par-dessus la leur. En ce moment, la situation la plus critique est celle de Gerardo, qui a été exclu du processus de nouvelles audiences, le privant ainsi de la possibilité de voir sa peine de 2 perpétuités plus 15 ans de prison être réduite. Pourtant, il y avait droit, tout comme Tony et Ramón. Ils insistent à tout moment à dire que tous les efforts de la solidarité doivent être